Alléluia. On va ouvrir la parole de Dieu et on va lire un texte donc assez particulier ce matin. Je vous l'accorde, mais c'est pas grave. Dieu fait des choses particulières de toute manière. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Alors là, je vais vous transporter même après l'enlèvement. L'Église sera partie et il va se passer des choses sur la terre. Et la Bible parle ici de deux hommes, de deux témoins qui sont Élie et Moïse. Des types d'Élie et Moïse sont-ils eux, sans doute. Mais en tout cas, là n'est pas pour nous le sujet de toute manière ce matin. Apocalypse chapitre 11, verset 1er, nous lisons « On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi ». C'est l'apôtre Jean qui est dans la vision et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. On retrouve cela dans le livre de Zacharie. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. C'est des images, ce sont des métaphores, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils parlent avec une autorité particulière. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ça, c'est Élie qui a fermé le ciel par sa prière. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Ça, c'est Moïse. On se rappelle de Moïse, des plaies d'Égypte, de l'eau changée en sang. Verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, étonnant, les vaincra et les tuera. Parce qu'il semblerait qu'ils ne soient pas passés par la mort. Donc, il faut bien qu'ils passent par la mort un jour. Et verset 8, « Leurs cadavres seront sur leur place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié, c'est-à-dire Jérusalem. » Verset 9, « Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres. » Vous savez, un peu comme Hérode et Pilate et tout ça, ils sont devenus amis quand on a crucifié Jésus, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la dixième partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient bientôt. Amen. Alors, j'aimerais pas ce matin, dis à ton voisin, le pasteur va pas nous faire peur ce matin. Vas-y, dis-lui, le pasteur va pas nous faire peur ce matin. Il y a quelqu'un qui me disait, moi quand je lis l'Apocalypse, ça me fait peur, la personne se reconnaît. Alors pour l'encourager, je lui dis, écoute, l'Apocalypse, il y a aussi les béatitudes de l'Apocalypse. Il est aussi écrit dans l'Apocalypse à plusieurs reprises, heureux ceux qui lavent leurs robes, heureux celui qui lit et qui écoute, etc. Il y a les béatitudes, c'est-à-dire qu'au milieu du chaos, il y a comme un faisceau de lumière, il est possible d'être heureux dans la tempête, comme il est possible de dormir dans la tempête comme Jésus. Donc l'Apocalypse, l'Apocalypse ne te fera rien, tu peux être heureux au milieu de l'Apocalypse. Ce matin, n'aie pas peur, détends-toi, Jésus est là, Jésus revient et l'Église est à la fête. Amen, l'Église est à la fête parce que Jésus revient. Mais ce que j'aimerais noter, on l'a lu ici en ce qui concerne les deux témoins au verset 11, ils ont été détruits par la bête, détruits par l'adversité, mais il est dit après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, ils se tinrent sur leurs pieds. Un esprit de vie entra en eux. Et ce matin, j'aimerais nous exhorter, frères et sœurs, à nous les vivants, ou du moins je l'espère, pour nous rappeler que c'est bientôt la fête de la Toussaint, n'est-ce pas ? On va aller avec les enfants faire la fête de la lumière pour contrecarrer la fête de la mort. Halloween, c'est pas terrible Halloween, hein ? Quand je vais chez moi, dans mon quartier, il y a des gens qui ont commencé à pendre des squelettes. J'ai voulu aller manger dans un resto, et puis je suis rentré à l'intérieur, puis il y avait déjà des toiles d'araignées. Je suis sorti de là, j'ai dit je vais pas manger là, je suis allé chercher un autre restaurant. Parce que nous sommes des chrétiens et nous célébrons la vie. Amen. Nous célébrons la vie, nous célébrons le ressuscité, mais il me semble parfois que dans notre vie, il y a des choses qui semblent mortes. Vous savez, l'Église, Jésus dira par rapport à une certaine Église, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et en réalité, vous avez remarqué, il est dit qu'un esprit de vie entre en eux. Un esprit de vie entre en eux. Peut-être c'est de la répétition, mais je veux répéter cela parce qu'il y a des répétitions salutaires. C'est que l'Église, sans l'esprit de vie et ses parfums, ne peut pas vivre. Le croyant, sans l'esprit de vie et la grâce de Dieu en lui, ne peut pas vivre. Il ne peut même pas se tenir sur ses pieds. Il ne peut même pas faire l'œuvre de Dieu. Il ne peut même pas faire une louange qui est agréable à Dieu. Nous avons besoin de l'esprit de vie, de l'esprit de Dieu qui vient nous renouveler, qui vient nous ressusciter, qui vient nous transformer. Dans les temps de la fin, ce qui va faire la différence, c'est une église remplie du Saint-Esprit. C'est des croyants remplis de la puissance du Saint-Esprit. J'ai besoin, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, nous étions morts par nos offenses, mais il nous a ressuscités, il nous a redonné la vie. Avant, nous étions morts à cause de nos péchés. À partir du moment où on a demandé pardon à Dieu, on est vivant aujourd'hui. J'aime pas la mort. Jésus est allé combattre la mort. J'aime la vie, alléluia. J'aime la vie qui est en Dieu. Et l'Église, mes amis, l'Église qui va pouvoir pratiquer les œuvres de Dieu, qui va pouvoir entrer dans le plan de Dieu, c'est une Église qui est vivante, qui est dynamique, qui a la vie en elle. Ces hommes-là, ils ont été à un moment donné vaincus par l'ennemi de leur âme, mais par la puissance du Saint-Esprit, ils ont été ressuscités. Et la Bible dit que l'Esprit qui a ressuscité Jésus, s'il habite en nous, il nous ressuscitera aussi. L'Esprit qui a ressuscité Jésus, s'il habite en moi et en toi, il nous ressuscitera aussi. Alléluia. Ce matin, pour pouvoir entrer dans les œuvres de Dieu et faire la volonté de Dieu, parce que je crois, comme le disait le frère tout à l'heure, ou je ne sais plus qui, Dieu bien sûr a des œuvres préparées d'avance. Bien sûr, Dieu a des choses glorieuses. Vous savez, vendredi soir, on est allé à Caen avec une équipe, parce qu'on a commencé là-bas une œuvre pour les filles de la rue. Les filles de la rue. J'avais le sentiment très clair dans mon esprit qu'en allant là-bas, on entrait dans des œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Mais Dieu en a encore de nombreuses comme cela. Dieu a encore des choses que peut-être on ne voit pas encore et qui vont se réaliser et se manifester dans son Église. Amen. Alors l'Église vivante, dynamique, remplie du Saint-Esprit a un appel. C'est l'appel qui consiste à pratiquer des œuvres bonnes. Alors pas pour être sauvé, pas pour se racheter. Les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, ce ne sont pas des œuvres que nous faisons pour apaiser notre conscience. L'apôtre aux Hébreux dit que ces œuvres-là, ce sont des œuvres mortes. Les bonnes œuvres ne sont pas non plus ce que nous faisons parce que nous ne savons pas quoi faire ou pour occuper notre temps, par exemple, ou remplir notre agenda, notre planning. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, ce n'est pas ce que nous faisons parce qu'on a été sollicité par le pasteur en raison de nos compétences. Le savoir-faire n'est pas suffisant pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu a un plan bien déterminé pour chacun et chacune d'entre nous. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées, ce sont ses œuvres, les œuvres du Saint-Esprit au travers de nous, afin que nous les accomplissions dans le cadre de la volonté parfaite de Dieu. Écoutez bien ceci, pour que notre œuvre subsiste, il est capital qu'elle soit construite avec les matériaux précieux de la volonté de Dieu. Ceux qui les auront pratiqués obtiendront en retour, c'est sûr, une récompense divine. C'est clair. Par contre, on peut s'embarrasser de mille et une choses qui ne sont pas pour notre vie nécessairement les œuvres que Dieu nous a demandé de faire. Alors on a besoin bien sûr de discernement. Quelles sont les caractéristiques de ces œuvres que Dieu a préparées d'avance? Elles sont taillées à notre personnalité, elles sont taillées en fonction de nos capacités, en fonction de notre identité. Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose qui n'a pas été prévu et programmé pour nous au départ. Dieu est bon, Dieu a un plan. Ces œuvres préparées d'avance, elles connaîtront forcément le succès. Quand on est dans le plan de Dieu, quand on fait la volonté de Dieu, elles connaîtront forcément le succès. En réalité, ce que Dieu commence, il l'amène toujours à la finition, à son accomplissement. Toutefois, le succès ne signifie pas que nous ne rencontrerons pas des difficultés, des épreuves et des combats. Et nous avons besoin de toute la persévérance et du caractère de Dieu pour les accomplir. Amen. Un jour, Gamaliel, le sage Gamaliel, dira ceci concernant l'œuvre des apôtres. « Et maintenant, je vous le dis, de ne vous occuper plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Savez-vous, frères et sœurs, que quand nous avons commencé l'œuvre et la construction de Saint-Étienne-du-Rouvray, savez-vous qu'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord? Il y avait des gens qui étaient contre le projet, qui trouvaient ça insensé. Et voilà pourquoi on avait besoin de foi, de caractère, de persévérance, de vision pour aller contre vents et marées et ne pas se laisser intimider par les mécontents, les incrédules et avancer dans le pays promis. Et pour les nouvelles étapes, ça sera la même chose. Pour entrer dans les nouvelles œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est la même chose. Nous aurons besoin de la grâce de Dieu parce que nous aurons encore et encore de l'opposition. Les Tobija vont se lever, les Sambala vont se lever, l'intimidation va vouloir pénétrer les cœurs, le découragement aussi. Mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Si Dieu est avec nous, on va y aller. Amen. Elles sont nécessaires, ces œuvres. Elles sont indispensables. Vous savez, Jésus a dit ceci, que votre lumière, Matthieu 5,16, luise ainsi devant les hommes. Jésus dira, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Et comment elle doit luire notre lumière? Afin qu'ils voient. Dites-le avec moi, afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il faut que les œuvres de Dieu soient visibles. Il faut que les œuvres des saints soient visibles. Il faut que l'Église soit rendue visible par autre chose que par seulement des discours. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est généreux. Oui, mais est-ce qu'on le voit dans le concret de l'Église? Est-ce qu'on le voit dans le concret de notre vie? Et on est tous appelés à pratiquer des bonnes œuvres, oui ou non? L'apôtre Pierre, 1 Pierre 2:12, dit ceci, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, c'est clair, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent, ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Vous savez comment Dieu veut qu'on le glorifie? Pas seulement le dimanche matin en chantant des cantiques. Allô? C'est bien de le faire. Ça glorifie Dieu. On a une super louange. On a une super onction du Saint-Esprit. Mais si nous voulons avoir un impact dans la société, il va falloir qu'on commence à produire, à réaliser des bonnes œuvres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus le roi qui nous appelle à produire des bonnes œuvres? Nous sommes riches, frères et sœurs. Si on a Internet, nous faisons partie des plus riches du monde. Alors voici ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Timothée 6:18 concernant les riches. « Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. » Vous allez dire « Mais pasteur, on est tellement bénis, mais continuons à l'être !» Continuons à l'être. Paul disait à Tite, un serviteur de Dieu extraordinaire, il va l'exhorter à de multiples reprises de faire des bonnes œuvres. Il dira ceci, Tite 2:6, exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Mais sois un modèle de bonnes œuvres. Tite 2:11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, verset 12, elle nous enseigne, verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Alléluia. Zélé pour les bonnes œuvres. Tite 3:1 encore. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Alors quand j'ai réalisé ce verset, pardonne-moi Olivier, mais j'ai pensé tout de suite à Olivier Tiffaine. Prêt à toute bonne œuvre. J'appelle le frère Olivier Tiffaine, l'urgentiste de la maison de Dieu. Olivier est toujours prêt. J'ai mon robinet qui vient de sauter. J'ai besoin de faire une soudure. Faut que je corrige ma lame de la tondeuse. J'ai une fuite d'eau. J'ai un problème électrique. Olivier est là. Olivier, tu vas avoir du monde. Olivier a toutes les femmes célibataires et le pasteur qui viennent le voir régulièrement, tu sais. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est bien disposé? Est-ce qu'on a envie de faire l'œuvre de Dieu? Toujours prêt comme les scouts. Alléluia. Tite encore, cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent. Fais pas les choses à l'arrache, à la va que je te pousse. On veut servir Dieu comme il faut. On veut servir Dieu avec application, avec excellence. Si toi, ton truc, c'est la guitare, tu joues super bien de la guitare. Amen. On prend des cours, on se perfectionne. Si moi, je dois prêcher de mieux en mieux. Si toi, tu chantes, tu dois chanter de mieux en mieux. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, nous voulons le faire pour la gloire de Dieu. Amen. Tite 3:14. Il faut que les nôtres aussi apprennent. On a besoin d'apprentissage. Sérieusement, intérieurement, disons-nous à l'intérieur, qu'est-ce que je fais concrètement pour servir l'Éternel dans ma génération? Quel est mon appel? Est-ce que je suis appliqué? N'ai-je pas besoin d'apprendre à pratiquer de bonnes œuvres? Voilà ce qui est bon, dit la parole de Dieu. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Alléluia. L'apôtre aux Hébreux dit, Hébreux 10, 24, ça va, vous aimez la parole de Dieu? La parole de Dieu est bonne. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité ou à l'amour et aux bonnes œuvres. Alors je nous lance un défi ce matin. Le défi ce matin, c'est de ressusciter. J'ai parlé de résurrection. C'est de ressusciter quelque chose. C'est de ressusciter l'esprit que j'ai appelé l'esprit de Dorcas. C'est-à-dire, Dorcas, c'est qui ça? Acte 9, verset 36, si on peut l'afficher à l'écran. Acte 9, verset 36. Dorcas, c'était une servante de Dieu qui pourrait être un type de l'Église aujourd'hui. Il est dit ceci concernant cette femme, elle habitait Joppé, il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas, je crois que ça veut dire littéralement gazelle. C'était une femme qui avait un certain zèle, une certaine promptitude, qui était habile dans ce qu'elle faisait. Il est dit, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. C'est-à-dire qu'il y avait chez elle un vrai zèle, elle était engagée. Comme à certains moments, il est question de certains qui ont beaucoup travaillé pour le Seigneur. Il est dit d'elle qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. C'était une femme de valeur, c'était une femme du style Proverbe 31. Alléluia. Vous savez, moi je dis souvent maintenant, les femmes à Saint-Étienne-du-Rouvray, vous êtes toutes des femmes du Proverbe 31. Je vous fais du bien là ce matin. Et vous savez ce que ce sont les femmes de Saint-Étienne-du-Rouvray? Elles les surpassent toutes, dit le Proverbe 31. Vous les surpassez toutes, mesdames. Vous êtes tout ce que vous devez être par la grâce de Dieu. Vous êtes des belles personnes. Et cette femme était une belle personne. Mais quand je lis « Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes », j'ai l'impression de lire ceci. C'est que le meilleur de sa vie était désormais dans son passé. Alors que la réalité de Dieu pour toi et pour moi, c'est que le meilleur de Dieu pour nous n'est pas dans notre passé, mais il est dans notre futur. Je répète, le meilleur de Dieu pour toi et pour moi n'est pas dans mon passé, mais il est dans mon futur. Parce que Dieu dit, je connais. Alléluia. Dieu connaît à l'avance les projets que j'ai formés sur vous pour vous donner un avenir et de l'espérance. Projets de paix et non de malheur. Le meilleur de Dieu, je vous dis, frères et sœurs, même dans le cadre de l'Apocalypse, il y a un rayon de soleil qui brille. Je déclare dans le nom de Jésus sur cette église, sur cette région de la France, je déclare que le meilleur de Dieu n'est pas dans le passé. Le meilleur de Dieu est dans le futur. Le meilleur est à venir. Dieu a pour toi, Dieu a pour nous des plans glorieux. Amen. Elle faisait. Verset 37, elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Je me suis dit, mais pourquoi elle est tombée malade, cette femme? Peut-être est-elle tombée malade, comme c'est arrivé pour d'autres serviteurs de Dieu dans la parole, parce qu'elle en faisait plus qu'il n'en faut par rapport à ceux qui en faisaient moins qu'il n'en faut. Et c'est toujours comme ça. Il y a des gens qui sont très engagés dans l'œuvre de Dieu et puis il y en a d'autres parfois qui sont un peu à la traîne. Alors la pensée de Dieu, on ne sait pas pourquoi elle est tombée malade, mais j'aimerais peut-être rapidement dire ceci, c'est sûr en tous les cas que ce n'était pas parce qu'elle avait commis un péché, vous êtes d'accord avec moi? La maladie n'est pas synonyme de péché ou de désobéissance. Je dirais qu'on peut tomber malade, mais par la grâce de Dieu, on peut guérir aussi. Parce que dans les meurtrissures de Jésus, nous avons la guérison. Elle est tombée malade. En ce temps-là, elle mourut. Alors on va faire quelque chose, on va la laver et la déposer dans une chambre haute. J'aime aussi ce qu'ils ont fait là. Ils l'ont lavé, ça pourrait parler du fait de voir revenir à de la propreté, à de la sanctification, parce qu'il faut qu'elle ressuscite Dorcas. Il faut que l'Église retrouve le sens des bonnes œuvres. Il faut qu'on fasse plus que de faire ce que l'on fait aujourd'hui. Amen. Alors il va y avoir de la sanctification et de la prière. La chambre haute, c'est le symbole de la prière. On la déposa là. Et comme Lydie est près de Joppé, verset 38, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Les gens pleuraient. Pierre fit sortir tout le monde. Il dit, c'est pas la peine de pleurer. Dieu va faire un miracle. Les réunions de prière ne doivent pas être des réunions de lamentation, mais des réunions où la foi s'exprime, où on croit qu'avec Dieu, tout est possible. que ce qui est mort va ressusciter. Il se mit à genoux, pria. Dieu lui dit, je vais faire un miracle. Puis se tournant vers le corps, il dit, la prière, la parole de Dieu, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Alléluia. On va se mettre debout dans la présence de Dieu. Il est dit, il lui donna la main et la fit lever. Et il la leur présenta vivante. Dieu veut ressusciter l'esprit de Dorcas au milieu de nous. Dieu veut que nous produisions des bonnes œuvres. Dieu veut que nous entrions dans ces œuvres qu'il a préparées à l'avance. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas rester insensibles à la souffrance d'autrui. Nous ne pouvons pas rester insensibles face aux besoins innombrables qui nous entourent. Et il y a une recommandation apostolique que Paul a reçu dès le départ de son ministère, par les colonnes de l'Église, Pierre, Jacques et Jean. Il est dit, ils nous recommandèrent, Galates 2:10, seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Ce que j'ai bien eu soin de faire. Je crois qu'il y a une place, frères et sœurs, pour les dons spirituels. Je crois qu'il y a une place pour la parole de Dieu, bien sûr. Et je crois qu'il y a une place pour la communion fraternelle. Mais je crois aussi qu'il doit y avoir une place, comme il y avait en Israël, il devait toujours y avoir une place pour l'étranger, pour les pauvres. Nous devons nous souvenir des pauvres et nous devons en prendre soin. Et je prie et je veux que l'Église retrouve l'esprit de Dorcas, que nous fassions des choses qui glorifient le Seigneur, qui honorent le Seigneur, des choses pratiques qui honorent notre Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on se prenne par la main comme Pierre l'a pris par la main et quelques instants on prie le Seigneur, on dit Seigneur, nous voulons retrouver l'esprit de Dorcas, nous voulons être une Église active, proactive, nous te prions de nous renouveler, de nous ressusciter dans l'esprit, de nous ressusciter, Seigneur, dans les œuvres de compassion. Nous voulons aller, Seigneur, avec une parole, mais nous voulons aimer en parole, mais pas seulement en parole. Nous voulons aussi aimer en action et en vérité. Nous voulons être là pour les pauvres. Nous voulons être là pour les démunis. Nous voulons être là pour les nécessiteux. Et que le ciel s'ouvre, Seigneur, sur cette vision maintenant. Que la grâce de Dieu s'ouvre sur cette vision maintenant. Nous appelons la bénédiction, mon Dieu, que tu puisses manifester ta grâce, que tu puisses manifester ton cœur, que tu puisses déverser tes eaux vives sur l'Église, dans les cœurs. Viens encore, Seigneur, transformer, viens enlever la sécheresse, viens enlever, Seigneur, tout ce qui est négatif, viens enlever, Seigneur, la religiosité, le confort. Seigneur, nous voulons aller vers les gens qui peut-être sont différents de nous, nous dérangent, mais Seigneur, tu les aimes, tu es venu pour eux, mon Dieu. Seigneur, que ta main se pose et ressuscite l'Église dans cette vision des choses, ressuscite des Dorcas au milieu de nous, ressuscite la générosité, l'engagement, le cœur de Dieu, alléluia. Seigneur, merci, merci pour ce que tu vas faire, merci pour ce que tu as fait dans le passé, mais nous croyons, Seigneur, que le meilleur n'est pas dans notre passé. Merci Seigneur pour hier, c'était formidable. Merci pour maintenant, c'est formidable. Mais nous voulons embrasser l'avenir. Nous voulons entrer dans les œuvres de Dieu. Nous voulons Seigneur nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Nous voulons faire ce qui est bon et utile, ce qui est véritable à tes yeux Seigneur. Nous ne voulons pas nous fabriquer une religion, une conception, mais nous voulons faire ce que ta parole nous dit de faire. Seigneur, je te prie afin que certains d'entre nous, nous nous sentions concernés ce matin, que nous puissions dire « me voici, envoie-moi, me voici, envoie-moi ». Merci Seigneur, pour la concrétisation de ce message. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais tu vas le faire. Ressuscite Tabitha au milieu de nous. Ressuscite Dorcas au milieu de nous. Lève des Dorcas, Seigneur. Renouvelle notre cœur. Seigneur, qu'il brûle pour le blessé du chemin. Nous ne voulons pas l'enjamber en disant « j'ai pas le temps, je vais à la réunion ». Seigneur, rends-nous attentifs à ce qui compte vraiment pour toi. S'il te plaît, Seigneur. Nous ne voulons pas être trop occupés, trop consumés par nos problèmes, bouffés dans nos énergies par ce qui nous préoccupe et ne plus avoir de temps à consacrer, à nous asseoir pour parler avec quelqu'un. Pour lui communiquer la joie, pour lui donner un morceau de pain, pour le rencontrer dans ses besoins. Seigneur, si tu nous réunis, ce n'est pas seulement pour chanter, écouter des messages. Si tu nous réunis, c'est pour être visible et que le monde voit l'Église et que ainsi Dieu soit glorifié. Parce qu'ils diront, là-bas, il y a de l'amour. Là-bas, il n'y a pas que des paroles seulement. Là-bas, on nourrit des pauvres. Là-bas, on s'occupe du blessé du chemin. Là-bas, on est attentif. Seigneur, ressuscite ça au milieu de nous. Ressuscite, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta maison, merci pour cette vision, Seigneur. Permets qu'elle prenne corps dans chacun de nos cœurs. On a jeûné, on a prié. Maintenant, il faut agir. Si on agit, qu'on prie jamais, on va s'épuiser. Mais si on prie tout le temps et qu'on ne fait jamais rien, on va devenir des mystiques, mes amis. On est appelé à prier et on est appelé à agir. On est appelé à faire les deux ensemble. Pour rencontrer notre société. Seigneur, nous ne voulons pas perdre notre saveur. Nous voulons être, Seigneur, saints, des sanctifiés. Mais nous voulons briller, Seigneur, parce que nous faisons, parce que nous sommes et parce que nous faisons. Seigneur, tu vois peut-être les mains de quelqu'un qui est fatigué, tu vois peut-être même le corps, l'âme de quelqu'un qui est malade. Tu es Dorcas, tu es fatigué, mais ce matin, l'Esprit de Dieu peut te renouveler. Il veut te renouveler, il veut t'encourager à reprendre le combat, à reprendre le service, à remettre les mains sur la charrue, à labourer dans l'intercession et à travailler pour le royaume de Dieu. Ne te laisse pas dévorer par des choses futiles. Dieu a des bonnes œuvres, il les a préparées pour toi. Ça sera terrible si dans des années tu rejoins le Seigneur et puis là dans le ciel Dieu te dira, tu vois tout cela mon fils, ma fille, c'était ce qui était prévu pour toi, c'était ce que j'avais prévu pour toi sur la terre, mais pour différentes raisons tu es resté un chrétien avec les mains dans les poches. Ah, tu étais saint, mais l'Église n'est pas un musée pour les saints. L'Église, c'est un atelier. L'Église, c'est un endroit où on travaille, où on se donne, où on prie, on agit constamment. Alléluia. Seigneur, merci pour ce que tu fais ce matin, dans les cœurs, dans les vies, dans les âmes. Nous te disons à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, Seigneur. Tu ressuscites, mon Dieu, ce matin. Tu ressuscites des choses mortes au nom de Jésus. Tu ressuscites des relations mortes. Tu ressuscites des ambitions mortes. Tu ressuscites, mon Dieu. Alléluia. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu de la vie. Alléluia. Et celui qui le croit dit amen et acclame Jésus le roi ce matin. Amen, amen, amen.
Espérons que vous avez été encouragés par ce message. Pour plus de renseignements sur notre Église ou découvrir d'autres messages de l'Évangile, n'hésitez pas à visiter notre site églisecielouvert.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous vous invitons également à nous retrouver chaque semaine à Saint-Étienne-du-Rouvray pour nous